pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous, bienvenue dans La Voix est libre. On commence comme toujours par la première phrase d'un roman culte et j'ai choisi Le Dahlia Noir aujourd'hui de James Ellroy, l'incroyable histoire d'Elizabeth Short assassinée en 1947 à Los Angeles. Voici la première phrase du roman. Vivante, je ne l'ai jamais connue, des choses de sa vie, je n'ai rien partagé. Ainsi commence ce chef-d'œuvre, le Dahlia Noir, l'affaire la vraie, d'ailleurs toujours non élucidée, mais James Ellroy fait partie de ceux qui refusent de laisser ce meurtre impuni en faisant revivre Elizabeth Short. C'est un grand roman. Des romans, nous en découvrirons beaucoup d'autres chez le comédien Thibaut de Montalembert, l'agent des stars. Dans la série 10% nous a fait visiter sa bibliothèque. Il sera question aussi de livres audio puisque Thibaut de Montalembert est un spécialiste du genre. L'équipe des libraires de l'émission se tient prête pour de bonnes idées de lecture et nous terminerons avec la chronique jeunesse de Victor Dolan. Mais d'abord, c'est l'invité et lequel, James Ellroy, lui-même, est avec nous aujourd'hui. La Voix est libre, c'est parti, premier chapitre. On le connaît pour le Dahlia Noir, bien sûr, mais aussi pour L.A. Confidential ou Underworld USA. C'est l'un des plus grands écrivains américains vivants, un maître du roman noir. Son œuvre dessine l'histoire d'une certaine Amérique des années 40-50. Il vient d'entreprendre un nouveau cycle sur sa ville natale, Los Angeles. Le premier tome s'appelait Perfidia. Le revoilà avec le deuxième volet, La Tempête qui vient, chez Rivage. En deux mots, nous sommes quelques semaines après l'attaque de Pearl Harbor, à la toute fin de l'année 1941, juste après Pearl Harbor, on traque les Japonais, les Japs. La tension est extrême et au même moment, la police de Los Angeles trouve un corps, un cadavre. Il faut enquêter dans ce chaos, tout ça derrière un rideau de pluie terrible. C'est un honneur et une grande joie d'accueillir James Ellroy dans La Voix est libre. Bonjour James Ellroy.
Hey boss, what's up?
Ça va et vous?
What it is.
On retrouve des personnages connus quand on entre dans vos livres. On retrouve un univers familier. C'est ça, une œuvre, quand les livres se répondent et s'entrechoquent et fonctionnent ensemble.
Non, it's for deepening.
Non, en réalité, j'approfondis les personnages existants. J'ajoute des personnages. J'approfondis du point de vue du style, de la technique, du point de vue de la description des milieux dans une écriture qui s'améliore et dans des livres qui sont meilleurs et encore meilleurs que les précédents.
Mais vos livres se répondent, ils fonctionnent ensemble quand même.
Well, they do. So here's the overall design.
Oui, d'accord. Voilà, je vais vous expliquer.
You have the original LA Quartet.
Vous avez four big novels. La tétralogie de Los Angeles, ça se situe entre 1946 et 1958 à Los Angeles, le Black Dahlia, le Grand Nulle Part, et les Confidential et White Jazz. Ensuite, vous avez la trilogie de Underworld USA, trois grands livres entre 58 et 72. Là, on est à l'échelle mondiale. American Tabloid, Cold 6000 et Underworld. Donc, mon pote, ce que je fais, c'est que je prends des personnages de fiction, mais des personnages réels aussi. Donc, je les puise dans les livres et je les place à Los Angeles pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, ce sont des gens plus jeunes.
Voilà,
c'est ça. Donc, maintenant, j'ai fait deux livres de la série sur laquelle je travaille.
Alors ça, c'est sûr qu'il y en a des personnages et votre méthode narrative est très particulière. On vous reconnaît grâce à ça d'ailleurs, tout a l'air éclaté et finalement tout se recompose en permanence au fur et à mesure de la lecture. Est-ce que vous écrivez avec un plan ou est-ce que vous avancez comme ça, tel que les idées viennent, en réajustant tout le temps, comme un type qui fabriquerait une route à mesure qu'il marche?
Yeah, no. The outline for.
Non, moi je travaille avec des plans. Ici, j'ai fait un plan de 500 pages pour
I
la tempête
superstructure.
J'ai une superstructure géante.
Wherein I describe
dans cette superstructure, je décris l'ensemble de l'œuvre, tout ce qui est récit narratif, les enquêtes policières, la perspective historique, les histoires d'amour. Ainsi, quand je me lance dans l'écriture, je sais exactement où se situera la fin.
Non, mais en vrai, je le savais.
Ah.
Mais comment vous créez cette impression de liberté dans l'écriture et de faux chaos, d'une certaine manière?
The reader, all intelligent readers can quickly
tous les lecteurs malins comprennent que je maîtrise tout ce que je fais.
Everything is deliberately
tout est délibérément conçu. Un niveau de conscience très élevé. Ça peut sembler improvisé parce que les scènes, de façon individuelle, ont un caractère d'immédiateté. Mais j'ai ce plan, cette superstructure, et ça me permet de me concentrer sur le livre chapitre après chapitre.
Donc vous inventez un peu quand même à l'intérieur de l'hyperstructure.
Yes. But not, I don't contradict the superstructure.
Oui, mais je ne vais jamais à l'encontre de la superstructure.
Sur Europe 1, la voix est libre.
Nicolas Carreau.
Alors, c'est crade, c'est violent, il y a de la corruption partout, les personnages sont noirs, torturés ou corrompus, la plupart sont d'authentiques salopards, mais certains ont quelques failles lumineuses très très fines. Je pense à Dudley Smith, par exemple. On ne peut pas dire qu'il soit un saint, loin de là, mais c'est un être complexe, finalement. Et tous vos personnages sont comme ça.
Well, he's the bad guy.
Dudley Smith, c'est le méchant.
C'est
le type qui subit la conversion fasciste.
He's a bad guy. He's running illegal aliens.
Il fait du trafic d'êtres humains et du trafic de drogue à partir du Mexique.
Oui, mais vous donnez quand même l'impression que chaque personnage, aussi noir soit-il, a quand même... Il y a quand même un peu d'espoir. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que James Ellroy fait des personnages d'un bloc noir et sombre. Je pense que dans chacun de vos personnages, il y a quand même une forme de rédemption possible.
No, they're not all dark.
Non, non, à vrai dire, tous les personnages ne sont pas sombres. Prenez le personnage féminin de Kay Lake. Voilà un être humain héroïque.
William H.
Parker, lui, il est à la recherche de l'honneur dans la plupart des aspects de sa vie.
They're suffused with good qualities.
Non, il y a des gens dans mes personnages qui ont des qualités humaines indéniables.
C'est ce que je dis. Même dans vos personnages les plus sombres, il y a toujours un tout petit espoir de rédemption.
Génial,
c'est vrai. Toujours l'espoir de la rédemption. Vous avez raison. D'accord.
Il pleut sans arrêt. Dans le livre, il y a de la pluie, des bourrasques. On est mal, on a froid, on est trempé en vous lisant. Le décor, l'environnement compte évidemment dans un roman noir.
I love LA in the rain. I love LA in the winter.
Los Angeles sous la pluie, en hiver, janvier, février, quand j'étais gamin, janvier, février, c'était mes mois préférés. Dès le début, je savais que le livre allait s'appeler La tempête qui vient et je voulais que le livre se passe surtout l'hiver à Los Angeles.
Et qu'est-ce que ça change pour l'intrigue? Évidemment, ça compte puisque les personnages sont embourbés, ils voient moins bien, le paysage lui-même est un peu faussé. C'est aussi pour ça que ça vous intéresse?
Well, there's a body that's discovered.
Eh bien, vous l'avez dit, on a découvert un cadavre. Il faut qu'il y ait la tempête pour qu'on découvre le corps, quand même.
C'est un grand et gros roman, encore une fois, 700 pages, et ce n'est que le deuxième volet d'un quatuor. Est-ce qu'on a besoin du temps long en littérature pour connaître vraiment et saisir les personnages et les enjeux d'un livre?
In general, I have four big stories to tell.
En réalité, moi, j'ai quatre grandes histoires à raconter pour couvrir Los Angeles pendant les 3 ans et demi de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, il me faut 4 livres. Donc, la réponse à votre question, c'est oui.
Mais je veux dire, en général, dans la littérature, est-ce qu'il y a besoin d'un livre de 700 pages? Moi, je pense au Vicomte de Bragelonne, je pense à La Recherche du Temps Perdu. Est-ce que c'est ça aussi votre idée? C'est de rester, que le lecteur reste longtemps avec l'œuvre pour s'en imprégner au maximum?
I don't care about the reader. I care about myself.
Moi,
it's
dire,
necessary
je m'intéresse
for
qu'à
me
moi-même. Hein. C'est nécessaire pour moi que de m'immerger là-dedans. Voilà.
Allez, on pose les parapluies quelques secondes et on les ressort tout de suite pour continuer notre balade à Los Angeles en compagnie de James Ellroy. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre.
Nicolas Carreau.
Retour dans La voix est libre avec le grand James Ellroy, l'auteur du Dahlia Noir, est en France pour présenter son nouveau roman chez Rivage, La tempête qui vient. James Ellroy, on va en venir au cœur du sujet. Vous travaillez sur les années 40-50. Est-ce que c'est un moyen de vivre vous-même cette époque-là, ou de la revivre d'une certaine manière? Est-ce que c'est une forme de nostalgie raisonnable?
Non. Non. I wanna rewrite history to my own
non, moi je veux réécrire l'histoire selon mon propre cahier des charges. Je veux vivre l'histoire et je veux donner mon histoire à l'ensemble de la planète.
Mais vous êtes historien au fond, même si on ne sait jamais quelle est la part de fiction et de réalité historique dans vos livres. Alexandre Dumas a dit « Il est possible de violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants ». Est-ce que vous souscrivez à cette idée ?
Well, I don't know exactly what he means.
Je comprends pas très bien ce qu'il veut dire par là, Alexandre Dumas, mais
I think what he's saying is you better do a good job.
Que de toute façon, quand on viole quelque chose ou quelqu'un, il faut que ça soit du boulot bien fait, quoi.
Ce que je veux dire et ce qu'il veut dire à mon avis, c'est que est-ce qu'on peut se permettre de tordre un peu l'histoire pour y intégrer la fiction? Est-ce que vous vous permettez de le faire et qu'est-ce que ça apporte à votre fiction?
You have to do that.
Il faut faire cela. On ne peut pas écrire un roman historique convaincant en s'en tenant au fait, parce qu'on se tirerait une balle dans le pied si on faisait ça.
Mais d'ailleurs, on est tenté d'aller chercher ce qui est vrai dans ce que vous décrivez de l'histoire de Los Angeles et de ses habitants, et ce qui est faux. Mais ça n'a pas tellement de sens de faire ça. Il faut qu'on suive votre histoire à vous.
So the reader could be tempted to try to find out what is true and what is not in what you
depict. Yeah, and I never answer the question.
Is there a point? Is it better to follow you, though?
Yeah. Listen, if it has the F on the spine, that means fiction. You pick up an Ellroy book, it's
c'est
a novel.
Un roman.
That's it.
Voilà, Ellroy, yeah. C'est un roman. Voilà, point final, vous suivez Ellroy et c'est bon.
Vous avez dit chez François Bunel que vous étiez un grand écrivain romantique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que c'est parce que c'est la souffrance votre moteur?
No, suffering is not my fuel.
C'est pas pour ça, c'est pas une histoire de souffrance.
No. Romanticism is about the tortured soul.
C'est à propos de l'âme, des âmes torturées de l'être humain, en concert avec les réalités du monde réel. Avec un soupçon, en français dans le texte, d'émotion, de luxure et de passion. C'est ça, le romantisme.
Vous mettez en scène des âmes noires. Vous, est-ce que vous êtes quelqu'un de moral? Vous dites à qui veut l'entendre que vous êtes chrétien. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de mystique dans vos livres. Quelle est l'importance de la religion dans votre manière d'écrire?
It's subtext.
La religion, elle apparaît en creux.
Sin.
Le péché.
Redemption.
La rédemption.
The divided souls of human beings.
Les âmes divisées des êtres humains. Cette interaction constante qu'il y a entre ces différents éléments.
Et justement, il y a toujours une dichotomie dans vos romans. On se souvient de Feu et Glace, bien sûr. Mais là, il y a toujours pareil. Il y a toujours le bien et le mal qui s'affrontent sans que ce soit tout à fait le bien d'un côté et le mal de l'autre. Mais il y a vraiment ce côté-là. Il y a le côté enfer-paradis chez vous, quand même. C'est très mystique, oui, encore une fois.
Yeah, OK. I'll buy that.
Allez, d'accord, j'achète.
Vous avez quitté Los Angeles, vous vivez dans le Colorado maintenant. Pourquoi est-ce que vous êtes parti?
I got back with my second ex-wife.
Je me suis remis avec ma seconde ex-femme.
She was living there.
Et je trouve qu'elle vit à Denver.
C'est tout, c'est la seule raison.
I was tired of LA.
Et puis j'étais fatigué de Los Angeles, moi.
C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit qu'il y avait peut-être, au fond, une forme de rejet de Los Angeles au bout d'un moment.
Yeah, I figured as much. I thought you'd had it with LA.
I had, yeah.
Oui, vous avez raison.
I got a better offer.
Et on m'a fait une offre plus alléchante.
Merci beaucoup, James Ellroy.
Hey, Big Daddy, thank you.
Je rappelle le titre de votre livre, La tempête qui vient. C'est chez Rivage, traduction de Sophie Aslanides et Jean-Paul Gratias, et merci à Xavier Combes pour la traduction simultanée. Merci beaucoup, James Ellroy. Dans un instant, chers auditeurs, c'est à vous de me dire quel est votre grand livre. Cette semaine, c'est Ghislaine qui nous appelle des Deux-Sèvres pour nous parler des Mains du Miracle de Joseph Kessel. A tout de suite.
La Voix est livre. Nicolas Carreau.
De retour dans La Voix est livre, chaque semaine, je vous demande quel livre a changé votre vie ou quel roman vous a marqué. Ça peut être un grand classique, un livre culte, un roman inconnu, tout me va. Cette semaine, c'est donc Ghislaine qui nous appelle de Clessey, dans les Deux-Sèvres. C'est à 50 km au nord de Niort, m'a-t-elle dit. Bonjour Ghislaine.
Bonjour Nicolas.
C'est gentil de nous appeler. Alors, vous vouliez nous parler de Joseph Kessel, d'un roman en particulier, Les Mains du Miracle. Pourquoi celui-là ?
Oui, c'est pas forcément le plus connu, hein, parce que forcément, dès qu'on parle de Kessel, c'est le lion qui apparaît.
Ouais, ou Belle de Jour.
Et, voilà, oui, souvent. Et moi, j'ai choisi un livre tout aussi rugissant, Les Mains du Miracle, parce que j'aime d'abord pour l'histoire, mais j'aime beaucoup les écrivains, les auteurs, les journalistes, parce que bon, Joseph Kessel était à la fois journaliste et écrivain, qui font sortir de l'ombre des personnages un peu oubliés, voire totalement méconnus.
Alors, vous nous racontez l'histoire, justement ?
Voilà, justement, parce que l'histoire des Mains du Miracle, c'est l'histoire de Felix Thurston. Si on parle de Oskar Schindler, bon, bah, grâce au film, tout le monde connaît Oskar Schindler. Eh bien, Felix Thurston, c'est un petit peu pareil, parce qu'il a quand même sauvé, pendant la Deuxième Guerre mondiale, plus de 800 000 vies. Alors,
la question, Felix, c'est comment ?
Voilà, comment ? Il était médecin. C'était un médecin né en Estonie. Alors, il était à la fois finlandais et suédois. Et il soignait par les mains, par des massages. Il avait appris avec un maître asiatique, voilà, toutes les subtilités du massage. Et il y a eu une rencontre en 1938. C'est le diable qui a rencontré un ange ou un ange qui a rencontré le diable. Voilà, on le met de n'importe quel côté. C'est parce que Felix Thurston a été le thérapeute de Heinrich Himmler.
Haut dignitaire nazi.
Alors, non, ça peut paraître un peu curieux. Mais le docteur Thurston a, entre guillemets, usé de son pouvoir pour pouvoir tirer beaucoup d'informations d'Heinrich Himmler. Parce que dans les moments d'intimité, ben, c'était le temps de la confidence, c'était le temps des échanges un petit peu surréalistes. Mmh. Et Felix Thurston a réalisé qu'il avait un pouvoir énorme sur cet homme, Himmler, pris dans un étau de mysticisme, d'adoration hitlérienne et d'orgueil incommensurable. Alors il a réussi, en naviguant comme il pouvait, à sauver 800 000 vies. Il est devenu un messager secret, hein, de la diplomatie internationale. Mmh. Et il a fallu qu'il aille aussi contre certaines forces contraires, hein, la Gestapo et certains autres membres haut placés du régime nazi.
Mais qui n'étaient pas du tout contents de l'influence que le docteur avait sur...
Voilà, mais il a quand même, voilà, il a fait même preuve d'héroïsme, il a bravé tous les dangers. Heureusement tout de même qu'il y avait quelques proches de Himmler qui l'ont soutenu. Alors je pense automatiquement, il en parle beaucoup, Joseph Kessel, dans son livre, de Rudolf Brandt. C'était le secrétaire particulier d'Himmler, et sans cet homme, il aurait été absolument impossible à Thurston de mener à bien ses plans de sauvetage. Et dans ce livre, Joseph Kessel, même peut-être par une notice en fin d'ouvrage, il indique que malheureusement, lors du procès de Nuremberg, ce Brandt a été exécuté. Alors, c'est là qu'on voit un petit peu toute l'injustice parfois, quand on veut même faire la justice, parce que certains hauts dignitaires nazis ont pu échapper tout de même au procès Nuremberg et refaire leur vie en toute impunité. Et des gens comme Brandt qui avaient en fait compte, c'était loin d'être des saints bien sûr, mais qui ont réussi quand même à sauver indirectement des vies.
On rappelle que Kessel s'est inspiré de la réalité, hein, de la vérité historique. C'est romancé, mais quand même, c'est tout à fait historique.
C'est tout à fait vrai, parce que de toute façon, Joseph Kessel, il me semble, hein, j'ai pas vérifié, il me semble que Les Mains du Miracle ont été écrites vers 1960.
Exactement.
Mais avant tout, voilà, il s'est basé sur les mémoires du médecin. Et ça a été très, très difficile parce que au départ, ce médecin, quand il a écrit ses mémoires, et même Kessel, quand il a écrit ce roman Les Mains du Miracle, il y avait certains qui doutaient encore de la véracité des dires de Thurston.
Comment vous l'avez découvert, ce livre, Ghislaine ?
Alors, je l'ai découvert, je l'ai lu. Alors, la première fois que j'ai lu, ça remonte un petit peu à la nuit des temps. Et c'est la troisième fois que je relis Les Mains du Mirat. Tellement il m'a ébloui. Je l'ai relu cet été. Je l'avais relu il y a à peu près 5-6 ans. Et la première fois que je l'ai découvert, alors là, je vous dis, ça remonte, j'étais adolescente. Hein,
donc, vous voilà. Savez plus ça comment remonte... il vous est arrivé dans les mains, en fait.
Voilà, parce que Joseph Tessel a toujours été l'un quand même de mes écrivains favoris. J'ai lu très très jeune, hein, donc j'ai englobé tout ça, enfance et adolescence. Mais Joseph Tessel, pour moi, est vraiment un de mes auteurs classiques, on peut dire, favoris, parce qu'il était journaliste, parce qu'il était écrivain, parce qu'il avait une façon de décrire la guerre comme, voilà... Peu d'auteurs l'ont décrit ainsi. Il avait aussi une façon objective de relater les faits. C'est un exemple. Moi, je pense aussi son livre sur la Syrie, quoi. Bon, ben voilà, ben, il est intemporel. Hein. C'est un peu comme Mozart qui est intemporel pour la musique, ben, Tessel est intemporel pour la littérature.
Les Mains du Miracle, donc publié en 1960 de Joseph Tessel, réédité régulièrement chez Folio. C'est à lire, c'est un grand livre. Merci beaucoup, Ghislaine, pour ce conseil.
Mais c'est moi qui vous remercie, c'est moi. J'adore partager comme ça mes lectures et c'est vraiment un plaisir de les faire à l'antenne. Merci beaucoup et à toute l'équipe d'Europe 1.
Au revoir, merci Ghislaine, merci beaucoup.
Merci beaucoup, au revoir.
Europe 1.
Et si vous aussi, vous voulez partager le livre au centre de votre bibliothèque, celui que vous avez lu plusieurs fois, qui vous a marqué, qui vous a changé éventuellement, que vous offrez, écrivez-nous. Il existe plusieurs moyens. Envoyez-nous un mail avec votre numéro de téléphone et le livre dont vous voulez parler à l'adresse livre@europe1.fr. Sinon, un message sur la page de l'émission ou vous me contactez directement via Twitter. Nous attendons vos bonnes idées. Dans un instant, encore des livres, nous partons visiter la bibliothèque du comédien Thibaut de Montalembert. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre.
La Voix est libre continue, il est temps de quitter un peu ce studio. Le comédien Thibaut de Montalembert est en ce moment au théâtre Héberto. Il joue dans En garde à vue, l'adaptation du roman britannique Brainwash de John Wainwright, déjà adapté en son temps en film par Claude Miller, souvenez-vous, avec Michel Serrault et Lino Ventura. C'était l'occasion de visiter la bibliothèque de Thibaut de Montalembert, connu aussi pour son rôle dans la série 10% et pour ses livres audio de grande qualité. Bonjour Thibaut de Montalembert.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous, dans votre appartement. Petit appartement, cosy, avec une bibliothèque, un type de bibliothèque que j'aime bien. C'est-à-dire qu'elle est sous l'escalier. L'escalier est creux et dedans, il y a tous les livres. On a l'impression de gravir comme ça une colline de livres.
Oui, alors c'est ça qui est... Alors c'est bien et c'est bien et c'est pas bien. Parce que donc, avant, j'habitais un appartement plus grand, beaucoup plus grand, dans lequel j'avais une bibliothèque... sur un niveau d'épaisseur. Et quand je suis arrivé ici, il fallait que je trouve des endroits et des astuces pour trouver où mettre les bouquins. J'ai quand même dû jeter 10 cartons, enfin donner d'ailleurs, pas jeter, mais 10 cartons de livres qui n'ont pas pu rentrer ici. Donc ça m'a désespéré, mais voilà, il a fallu faire des choix. Et alors, une fois que cet escalier bibliothèque a été construit, ben, j'ai mis une première chose de livres, un premier rayonneur, mais il y avait de la place derrière. Le problème, c'est que si je les mettais derrière, je ne pouvais plus voir ce que c'était. Donc, il a fallu que je fasse des petits podiums, que je fasse construire, ouais. Ce qui fait qu'en fait, c'est une bibliothèque en épaisseur sur 3 rangs d'épaisseur. Ouais. C'est moyennement pratique, je dois dire.
C'est bien fait.
Parce mais que voilà.
En façade, c'est déjà assez grand l'escalier. Ouais. Mais effectivement, j'ai l'habitude de voir des bibliothèques avec 2 épaisseurs de livres. Ouais. Là, il y en a 3.
Là, il y en a 3.
Mais effectivement, on voit très très bien la 3e rangée de livres derrière, grâce à vos petits podiums. C'est très ingénieux, bravo.
Voilà.
On a aussi un piano qui est juste là. C'est vous qui jouez du piano ?
Mais non, c'est pas moi, c'est ma belle-fille qui joue du piano. Moi, je ne joue que de l'harmonica. Moi.
Et juste à côté, il y a des livres anciens sur une autre petite étagère. Ouais. On va y revenir tout à l'heure. Et là-bas, je vois aussi des livres de cuisine.
Des livres de cuisine. Et puis, dans ma chambre, on peut y aller quand même. Dans ma chambre, il y a tout ce qui est théâtre. Voilà.
D'accord.
Ça, c'est tout ce qui est théâtre. Et ça, c'est tout ce qui est, mettons, mystique, religion, etc. C'est un domaine qui me passionne.
Sauf que votre chien n'aime pas trop qu'on vienne dans cette chambre. C'est son territoire. Comment ça se passe?
Le chien, tout est son territoire. De toute façon, elle est toute petite, donc elle a peur.
Mais là, il y a...
Vous êtes un collectionneur de livres de théâtre, de pièces.
Bah, je suis
parce
pas,
qu'il y a non, des non. vieux livres, il y a des vieilles éditions là.
Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un peu des vieilles éditions de temps en temps. Ça s'est trouvé au hasard, mais je suis pas un collectionneur. C'est que c'est mon travail en fait.
Vous avez joué la plupart de ces pièces ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a même des auteurs que j'ai, hélas, malheureusement, jamais joué.
Shakespeare, vous l'avez joué ?
Oui, j'ai joué Hamlet. J'ai joué Horatio dans Hamlet. J'ai joué dans Le Comte d'Hiver. J'ai joué. Je suis en train d'essayer de monter à Macbeth.
Bon, mais on se retrouve devant votre bibliothèque principale avec les romans. C'est quoi votre rapport à la lecture ? Vous êtes un énorme lecteur, un dévoreur de livres ou
assez. Oui, si, assez. Et c'est par période. Alors, il peut y avoir. En général, j'en lis plusieurs en même temps, en fait. D'accord. Ouais, ça je ne vais pas forcément au bout de tous les livres. Il y en a qui m'accrochent, d'autres qui me. Par exemple, là, alors, il y a. Bon, ça, c'est tout ce qui est un peu autour de la physique quantique. voilà, ça, c'est parce que c'est un truc qui me passionne, mais comme je ne suis pas du tout scientifique, donc c'est plutôt des livres de vulgarisation. Tout au fond, là-bas, derrière, il y a les Pléiades. Alors évidemment, les Pléiades, on y va une fois de temps en temps, parce que là-dedans, il y a quoi ? Il y a Baudelaire, il y a Pirandello, il y a...
Oui, c'est un conservatoire, quoi, les Pléiades.
C'est un conservatoire, exactement.
Vous les avez là, vous le savez.
Voilà, c'est ça. Entre les deux, il y a, ben, il y a un peu de tout, en fait. Il y a un peu de tout, c'est un peu mélangé. Simone Veil, il y a Balthazar de Castiglione, le livre du courtisan, voilà, ce genre de choses.
Et qu'est-ce qui vous plaît dans la physique quantique ? Qu'est-ce que vous y cherchez ?
Je pense qu'aujourd'hui, enfin, c'est pas que je pense, c'est que je trouve aujourd'hui que ceux qui ont le discours le plus métaphysique, le plus mystique, ce sont ces gens-là, en fait. Ils parlent d'un monde qui est celui dont les poètes et les mystiques ont, autour duquel ils ont rêvé pendant longtemps, c'est-à-dire... un monde où tout est relié, en fait. Et ça, c'est fascinant.
Oui, c'est ça, c'est de la métaphysique,
c'est
en fait.
C'est de la métaphysique. Oui, c'est de la métaphysique en acte, en fait.
Et bah, moi, ça me passionne aussi, mais j'y comprends vraiment, vraiment rien. Comment vous expliqueriez la physique quantique ?
C'est très, très difficile. La physique quantique, expliquer ce que c'est, à chaque fois, on croit comprendre un truc et puis on s'aperçoit que 5 minutes après, on n'a pas compris. Mais ce n'est pas grave.
Oui.
Ça ouvre des espèces de champs comme ça, de réflexion. Alors, il y a la physique quantique, puis après, il y a aussi, maintenant, il y a la biologie quantique. Il y a plein d'autres disciplines scientifiques autres que la physique qui se nourrissent des quantas, etc. Voilà.
Alors, il y a des romans aussi, beaucoup.
Il y a des romans, pas mal.
Il y a La Recherche du Temps Perdu.
Oui, alors ça, qui est un truc quand même auquel je tourne autour. Alors, j'ai même La Recherche intégrale qu'on m'a donnée.
Ah oui, là, c'est le... ouais, mais ça, c'est le gros pavé.
Et voilà, c'est impossible.
C'est pas très agréable.
Non, c'est pas agréable du tout. Alors, j'ai recommencé à partir du 1, le 1, le classique de chez Gallimard.
En version poche. Ah oui, non, ils ont réédité en grand format dans la collection blanche.
Mais au moins, c'est d'une taille humaine.
Oui, du côté de chez Swann.
Plutôt que cette espèce de chose qui est un peu ressemble à un bottin.
Il y a un truc qu'il ne faut pas qu'on oublie avant de partir, c'est que vous lisez des livres audio beaucoup.
Ouais.
Vous m'avez dit que vous en avez fait 7 cette année.
Bah, j'en ai fait 7, je crois que j'en dois être à peu près autour de ma 30aine de livres à peu près.
C'est un exercice particulier. Est-ce que vous avez des petits trucs pour lire correctement à voix haute ? Est-ce que vous anticipez le mot d'après ou des choses comme
oui,
ça ?
Oui, ça forcément.
Comment on fait ?
C'est pas très bien d'ailleurs, parce que j'y pense pas, mais je sais que mon œil est déjà barré sur le mot d'après. Bon, d'abord, je lis le livre une fois, voire deux fois, avant de l'enregistrer. Ça, c'est la béaba, quand même, savoir de quoi on va parler. Et après, oui, c'est ça, la parole va moins vite que l'œil. Donc l'œil, il est toujours un tout petit peu devant. Mais c'est comme quand on conduit une voiture. Au début, on fait attention aux vitesses, puis au bout d'un moment, on ne se rend même plus compte, c'est automatique. Et moi, je lis à haute voix depuis très longtemps, puisque j'ai un frère qui est écrivain, mais qui est aveugle. Et à qui j'ai commencé à lire des livres. Il a eu un accident, et Hugues, et je lui lis des livres depuis l'âge de 15 ans, ce qui m'a donné le goût de ça aussi, énormément, de la lecture publique, ce que je fais régulièrement, des lectures publiques, et maintenant d'enregistrer des bouquins.
Mais on demande souvent à des comédiens de faire ça. Mais est-ce que ça se joue vraiment, la lecture de livres, ou est-ce qu'il faut au contraire une sorte de ton neutre comme ça, ou... Oui, j'imagine qu'il y a plusieurs écoles, mais...
C'est vous... surtout qu'il y a, il y a autant de, d'écrivains qu'il y a de... c'est une partition. Donc c'est comme Chopin, on ne joue pas Chopin comme Bach ou comme Beethoven ou comme Mozart. Chaque écrivain a sa respiration, son rythme. Il y a des écrivains qui demandent, pas un ton atone, enfin pas un ton, mais qui demandent à être...
Neutralité.
Une certaine neutralité, c'est ça, pour mettre vraiment la langue devant. Et puis il y en a d'autres. Si vous lisez, par exemple, les Mémoires de Paris, les Mystères de Paris, qui est un bouquin que moi j'adore, où il y a plein de personnages, de Gensou, exactement, ben je fais tous les personnages.
Et vous dialoguez,
je fais toutes les voix.
Avec le ton, etc. Vous
ouais, faites pas, je fais toutes les voix. Donc je fais les voix féminines, masculines, les vieux, les jeunes, etc.
Ça donne quoi, une voix féminine, partie Beaumont-Talembert?
Je sais pas, il faudrait...
Faudrait lire, quoi.
Faudrait prendre un exemple.
Vous l'avez, là, les Mystères de Paris? Vous l'avez fait en livre audio?
Non, mais c'est un gros machin
oui,
à faire, donc ça leur fait
faire
peur.
1000 pages, quoi.
Moi, il y a un bouquin, alors je voudrais faire les Mystères de Paris, mais avant les Mystères de Paris, je voudrais faire Moby Dick, qui est un de mes livres.
Voilà. Bah, il est là, voilà. Allons-y.
Alors,
commencez par le début.
Il n'y a que des mecs. Ah, bah,
ça fera déjà ça pour le livre audio.
Ça, c'est vrai, oui. Je m'appelle Ismaël Méton. Il y a quelques années, sans préciser davantage, n'ayant plus d'argent ou presque, et rien de particulier à faire à terre, l'envie me prit de naviguer encore un peu et de revoir le monde de l'eau. C'est ma façon à moi de chasser le cafard et de me purger le sang. Quand je me sens des plis amers autour de la bouche, quand mon âme est un bruineux et dégoulinant novembre, quand je me surprends arrêté devant une boutique de pompes funèbres ou suivant chaque enterrement que je rencontre, et surtout lorsque mon cafard prend tellement le dessus que je dois me tenir à quatre pour ne pas délibérément descendre dans la rue pour y envoyer dinguer les chapeaux des gens, je comprends alors qu'il est grand temps de prendre le large.
Pas une reprise, pas une hésitation, c'est quand même un vrai métier. Et alors c'est fou parce que moi je connais vos livres audio, parce qu'on parle de livres audio aussi sur Europe 1, et en fait je ne l'avais pas réécouté récemment, mais là en vous écoutant lire un livre, vous avez repris immédiatement votre ton de lecteur de livre. Mais vous ne vous en rendez pas compte, j'imagine.
Non, mais après...
Si vous avez des pauses comme ça...
Oui, parce qu'il faut...
Il y a une identité, je veux dire, dans votre manière de lire.
Ah, peut-être. Ça, c'est possible. J'espère, d'ailleurs, parce que je pense qu'un acteur, c'est une voix, d'abord. On reconnaît tout de suite Jouvet, Gabart, Letty.
Mais le livre audio, c'est encore un peu timide en France. Vous y croyez, vous, évidemment?
Ah ben, ça monte de plus en plus.
Oui, ça monte beaucoup.
C'est-à-dire que c'est vraiment, dans chaque maison d'édition, le département livre audio, c'est chaque année un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et ça, depuis 10 ans. Et puis ça continue, c'est exponentiel. Alors maintenant, c'est plus le support livre, enfin CD, va disparaître, puisque maintenant, il y a de plus en plus de plateformes. Et plein de jeunes qui vont sur les plateformes pour télécharger des bouquins.
Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous dise pas d'abord « je vous regarde dans 10%, mais je vous écoute en livre audio » ?
Ça m'est arrivé, oui.
Ouais, avant 10%.
Oui.
Ça, c'est beau quand même.
Des gens qui notamment qui font de la voiture.
Ah oui.
Et qui me disent, voilà, moi, je lis des livres en voiture. Et qui ont lu certaines choses.
Vous m'avez dit que vous lisiez le livre avant de le,
oui,
de le lire pour, au micro, mais vous avez lu Le meurtre de Roger Ackroyd,
oui,
de Agatha Christie,
bah oui,
et la fin est complètement dingue, et le narrateur joue un grand rôle dans cette histoire.
Ah bah vous l'avez entendu ou pas, le bouquin ?
Non. Est-ce que le fait de connaître la fin de ce genre de livre, ça quand même, est-ce que vous n'êtes pas dit, là, j'aurais peut-être dû... Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est plus compliqué à lire un polar comme ça avec une fin de dingue? Est-ce qu'on n'a pas la voix qui tremble un peu quand on arrive à la fin? Je sais pas. Est-ce que non?
Non, j'ai pas le souvenir de ça. Non. Bah, c'est comme jouer, hein. C'est-à-dire on connaît la fin de la pièce aussi. On a répété le rôle pendant 2 mois. On connaît la fin, mais en même temps, c'est ça qui est génial, c'est que on peut vivre totalement le présent. Sans crainte, puisqu'on sait comment ça se termine.
Il y a eu un essai comme ça pour un film avec Guillaume Canet, je crois, où le scénario était était donné aux acteurs, mais au fur et à mesure de l'avancée du tournage.
Ah oui.
Mais en fait, il n'y avait pas de scénario, je crois. Il arrivait dans une pièce et puis il fallait qu'il comprenne lui-même ce qu'il avait à faire là. C'est une sorte de polar, ça c'est marrant.
Ouais, ouais.
Mais vous avez raison, finalement, c'est ça le métier de l'acteur.
C'est, oui, c'est ça.
C'est de savoir ce qui se passe et puis de faire comme si vous ne le saviez pas.
Exactement. C'est de mentir au bon sens du terme. Mm-hmm. Au bon sens du terme, oui.
Bon, bah, merci Thibaut de Montalembert.
Bah, écoutez, merci à vous.
On se quitte sur ces très belles paroles, avec cette très belle voix. Merci beaucoup.
Europe 1.
De retour en studio, merci à Julien Or pour la prise de son. Et je vous rappelle donc que Thibaut de Montalembert joue en ce moment au théâtre Héberteau dans En garde à vue. Restez là, les libraires de La Voix est libre sont prêts eux aussi à passer sur le grill. Ils ont apporté chacun un livre avec une mission, vous donner envie de les lire. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Retour dans La Voix est libre avec l'équipe des libraires. Ils défendent le livre au quotidien. Grâce à eux, les trottoirs sont bordés de romans aujourd'hui. Anne-Sophie Rouvelou de la librairie L'Infini Comédie à Bourg-la-Reine et Christophe Daniel. Lui, il vient de la jolie librairie La 25e Heure, Paris 15e. Salut les libraires.
Salut. Salut Nicolas.
On commence avec vous Anne-Sophie, mais dites-nous un mot quand même de cette nouvelle librairie, L'Infini Comédie à Bourg-la-Reine, ça se passe bien ?
C'est magnifique, c'est génial, on a eu un accueil chaleureux dès l'ouverture, c'est exceptionnel, puis avec un nom pareil, de toute manière, voilà, ça peut être que bien.
Oui, c'est le titre de l'un de vos romans préférés, l'un de nos romans préférés, L'Infini Comédie de David Foster Wallace.
David Foster Wallace, exactement.
C'est un roman magnifique, je vous le conseille, lisez-le. Et votre roman alors, Anne-Sophie, quand même ?
Eh bien, moi je vais vous parler d'un roman français qui s'appelle « Où bat le cœur du monde » de Philippe Ayat. C'est paru chez Calman Lévy. Et je vous en parle parce que c'est un superbe roman populaire au sens noble du terme. C'est-à-dire que c'est divertissant, c'est facile à lire, il y a un véritable souffle romanesque, beaucoup d'émotions. Donc c'est vraiment incroyable. Pour l'histoire, on fait la connaissance de Darius, qui est un enfant qui va grandir dans la Médina de Tunis des années 30, et qui a un papa qui est libraire, qui est amoureux de littérature française, et ce papa, en fait, va être assassiné dans une émeute. Donc vous imaginez que pour Darius, c'est un traumatisme, il va en perdre la voix, et c'est à ce moment-là qu'il va découvrir la musique, la clarinette plus précisément. Et en fait, pour lui, ça va devenir sa passion. Il va essayer d'en faire sa vie, son gagne-pain, entre guillemets. Sauf qu'il va devoir aussi se détacher de sa mère, qui est vraiment dévorante. Elle me fait beaucoup penser à la maman de Romain Gary, hein, pour vous dire. Donc, il va se détacher d'elle, il va essayer tout du moins. Et c'est là qu'on a vraiment un roman d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il va tomber amoureux, Darius, il va grandir, il va aussi connaître la misère. Il va essayer de s'en sortir à tout prix. Et c'est génial parce qu'on traverse les époques et les pays. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on est à New York dans les années 50. Il y a un autre moment où on est sur la route avec... juste Billie Holiday et Charlie Parker quand même, hein, jusque dans le sud des États-Unis. Donc voilà, c'est vraiment un roman qui est complet et c'est aussi l'histoire d'un battant qu'on a là. C'est-à-dire que si on y croit un petit peu et si on se bat suffisamment, on peut parvenir à réaliser nos rêves, ce qui est quand même un thème assez universel malgré tout. Donc vous voyez, c'est quand même un roman qui est riche à tout point de vue et que voilà, on peut conseiller aux amateurs de jazz, mais aussi à toute personne qui cherche un bon roman avec un souffle incroyable.
Ok, Philippe Ayat, Où bat le cœur du monde, et Philippe Ayat qui passera bientôt à l'Infini Comédie, justement.
À Bourg-la-Reine, tout à fait. Ouais, en plus, ça sera notre première rencontre. Donc voilà, venez tous. C'est le vendredi 22 novembre à 18h30.
Christophe Daniel, à vous. On part au Japon, c'est ça ?
On part au Japon, oui, avec un écrivain japonais, mais qui écrit en français. Il est professeur de littérature française au Japon. Il s'appelle Akira Mizubayashi. Et alors, on l'avait lu déjà à travers d'autres titres, mais qui n'étaient pas des romans, qui étaient plutôt des récits autobiographiques. Là, c'est la première fois qu'il se lance dans l'écriture d'un roman. Le roman en question s'appelle Âme brisée. C'est chez Gallimard. Alors, L'âme brisée, c'est un titre que je trouve, moi, très beau. L'âme, il faut savoir que c'est une petite pièce en bois sur un violon.
Ah, d'accord. Ouais. Cette âme-là.
Qui donne toute la qualité de vibration des cordes. Donc, c'est cette âme-là dont il est question. Parce que la première partie, je dirais le premier mouvement, parce qu'en fait, il suit l'écriture d'un quatuor de Schubert, Rosamund. Donc le premier mouvement, on est à Tokyo en 1938, pendant la guerre sino-japonaise, dans un centre culturel, se réunissent quatre musiciens amateurs, dont un japonais, Yu, qui a l'habitude donc de se réunir avec trois étudiants chinois, et il répète ce fameux quatuor de Schubert, Rosamund. Au milieu de cette répétition, débarquent des soldats qui vont les brutaliser, et surtout briser le violon de ce japonais. Un lieutenant arrive à la suite des soldats plus sensible, aperçoit qu'un gamin est caché dans le placard, ne le dénonce pas, et au contraire va pousser discrètement les restes du violon, et puis ils embarquent tous les musiciens, c'est le premier mouvement. On se retrouve des années après, le jeune garçon Ray, qui avait 11 ans au moment des faits, est devenu un adulte, il s'appelle Jacques Maillard, et il est devenu luthier en France. Voilà, c'est le point de départ d'un roman plein d'émotions, mais sans sentimentalisme excessif, et une très belle histoire.
On a dit donc Philippe Ayat, Ouba le cœur du monde chez Calman Levy, et Âme brisée d'Akira Mizubayashi chez Gallimard. Merci à tous les deux.
Merci.
Direction le rayon jeunesse maintenant avec Victor Dolande. A tout de suite.
Il était une fois.
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 Dernier chapitre de La Voix est libre. Bonjour Victor Dolande.
Bonjour Nicolas.
Et comme chaque semaine, on retrouve donc votre conseil littérature jeunesse. Aujourd'hui, vous avez choisi un album intitulé Jean-Michel et le poussin sandwich de Magali Lehuche.
Oui, alors là, il faut que je vous avoue, Nico, je me suis fait vraiment un petit plaisir parce que j'adore ce personnage. Jean-Michel, le caribou des bois. Mais alors attention, ce n'est pas n'importe quel caribou. Lui a les mêmes cornes que ses congénères, mais en plus, il possède une cape rouge, un bandeau noir, un costume et des raquettes de marche au pied. Oui, oui, Jean-Michel est un super-héros. Il existe depuis 2010 environ en littérature jeunesse. Un peu moins d'une dizaine d'albums. Et dans le dernier, qui vient juste de sortir, un poussin sandwich publicitaire vient d'arriver à Vlal-Bonvent. C'est la ville imaginée par Magali Lehuche. Ce poussin fait fureur auprès des habitants en vendant des produits aux qualités prétendument miraculeuses, comme un bonnet chauffe-cerveau qui rend plus intelligent, une boisson qui fait rajeunir ou encore des chaussures de sport qui font courir vite. Sauf que, ben oui, on ne la fait pas. On ne la fait pas, Jean-Michel, qui remarque rapidement la supercherie. Et ben oui, le bonnet chauffe-cerveau gratte et donne des boutons. La boisson énergique donne des gaz et les chaussures de sport épuisent les habitants de Vlal-Bonvent à force de courir partout.
Un poussin sandwich et pas un sandwich au poussin.
Exactement.
Mais pourquoi votre super-héros est-il si génial?
D'abord parce qu'il marque beaucoup de points sur son prénom. On ne connaît quand même pas beaucoup de super-héros qui s'appellent Jean-Michel, déjà. Ça, moi, j'aime beaucoup. Ensuite, parce qu'il est un peu super pourri pour résoudre plein de problèmes. Un brin déjanté également. L'auteur Magali Lehuche nous confie ensuite comment elle a eu l'idée de ce super-héros.
J'ai eu envie de faire un héros qui soit pas du tout dans les normes de ce qu'on attend d'un héros, c'est-à-dire qui soit très commun à nous, pauvres mortels, et avec un nom pas du tout super-héros, enfin, que ce soit un héros du quotidien dans lequel on puisse tous se retrouver, quoi.
Un héros normal, en somme. Comme tous les super-héros, Jean-Michel est flanqué d'un acolyte, en l'occurrence Gisèle, une chamelle sourde et muette qui résout alors à peu près... 80...
Je connais assez peu de chameaux bavards.
C'est pas faux. Et puis elle résout vraiment 99% des énigmes à sa place. Les histoires de Jean-Michel, vous pouvez les lire à vos enfants à partir de 3 ans et demi, 4 ans. Succès garanti. Et vous-même, en le lisant, je vous garantis quelques bons fous rires. Et il faut vraiment absolument le découvrir maintenant, car dans quelques mois, en février prochain, pour être très précis, Jean-Michel débarque à la télé sur France 5. Ça va être un énorme carton.
Eh bien, je le garde pour ma fille, celui-là. Voilà, c'est bien fait pour vous. Jean-Michel et le poussin sandwich, donc, de Magali Lehuche. Et c'est édité par Actes Sud Junior. Merci, Victor.
À la semaine prochaine, Nicolas.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide. Merci à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, pour la réalisation, et à Xavier Joly pour sa programmation musicale. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. À la semaine prochaine.
La Voix est libre.
Nicolas Carreau.